Bon, ben, je vous propose de reprendre notre journée, notre rencontre, donc avec Nicolas Fried.
Niki,
voilà, qu'on ne connaît que sous le nom de Niki. Donc, Niki enseigne les French Studies, puis je dis ça.
Francophone Studies. French and Francophone.
Yeah, French and Francophone. À l'Université d'Édimbourg, donc depuis 2014. Ses premiers travaux portent sur une étude que j'ai trouvée, je ne la connaissais pas pour tout te dire, des représentations françaises de l'Empire colonial britannique pendant le Second Empire face aux mutineries indiennes de 1857-58. Cette étude a donné lieu à ton premier ouvrage, je crois.
Voilà,
donc, The French Colonial Imagination.
Oui.
Writing the Indian Uprising. Elle a été lauréate d'une bourse du Arts and Humanities Research Council pour conduire des recherches sur les mémoires de l'esclavage dans la France contemporaine. Elle a écrit de nombreux articles. Hein. C'est impressionnant, chapitre d'ouvrage. Et elle a notamment co-dirigé l'ouvrage « At the Limits of Memory, Legacies of Slavery in the Francophone World ». Sorry for the accent. En 2015,
pour le mien.
Et en 2017, elle a été lauréate d'une seconde bourse qui lui a permis de créer un réseau international d'activistes et militants pour les réparations. Un réseau qui est quasi impensable, je crois, en France. Hein, tu pourras peut-être
je
nous
pense.
Le dire. Hein, ouais. Et donc, c'est ce dont tu vas nous parler. Et ton travail essaye d'affronter l'imaginaire et les mythes sociopolitiques spécifique à la question des réparations d'esclavage et de la traite des Africains. Donc, nous t'écoutons pour ces réflexions sur le réseau international des chercheurs et militants pour les réparations africaines.
Merci beaucoup, Christine. Donc, merci de m'avoir invitée ici aujourd'hui pour vous parler de ce travail que j'ai fait en collaboration avec ce qu'on appelle l'INOSAR, donc le réseau international de chercheurs et de militants pour les réparations africaines. Donc, j'ai cofondé ce réseau avec la professeure Joyce Hope Scott, qui vient de l'Université de Boston, et l'association Pan-African Reparations Coalition in Europe, connue sous le nom de PARCO. En octobre 2017, à Brixton, à Londres, en partie pour remédier au manque de confiance entre universitaires ou chercheurs et militants sur la question des réparations. Car trop souvent, pour citer ce Hilary Beckles, les fonctionnaires de l'État ont fait appel aux services des universitaires pour nier et se détourner de leur culpabilité. Munis de connaissances produites dans ces universités, l'État britannique, auquel on peut ajouter l'État français et d'autres encore, s'est engagé sur la voie du reniement, du refus et de la confrontation. Donc, on m'a demandé de réfléchir, ou Christine m'a demandé de réfléchir à cette initiative en réponse au thème de la conférence « Mémoire en strat ». Donc, je commencerai donc par présenter très brièvement l'INOSAR et nos principales réalisations avant de réfléchir sur le thème de la conférence. Et je continuerai en m'interrogeant sur la façon dont l'INOSAR s'engage dans l'histoire de l'esclavage et la manière dont elle continue à se faire sentir dans le présent en considérant les défis et les réponses que nous avons apportées dans le cadre de cette collaboration chercheur-militante sur les questions de la réparation. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'INOSAR? Comme j'ai dit, c'est un projet collaboratif mené par l'Université d'Édimbourg et l'Université de Boston qui entre dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies. Donc, notre projet a commencé en mai 2017 et est financé par le Conseil de recherche en arts et en sciences humaines dans le but de créer un réseau international de chercheurs et de militants dédié aux réparations et d'autres formes de justice transitionnelle, spécifiquement pour l'asservissement et le génocide des personnes d'ascendance africaine et la pression et la déformation des identités africaines qui en résultèrent. Donc, son innovation est précisément d'avoir réuni les universitaires et les militants et d'être parvenu à conjoindre nos efforts collectifs au niveau international pour faire avancer cette lutte pour les réparations dans la mesure du possible. Car le concept de réparation a été et reste soumis à des idées fausses et déformantes, par exemple que les réparations consistent en la simple remise d'un chèque. Le besoin urgent, selon nous, de fournir des résultats académiques rigoureux et utiles un public universitaire et non universitaire, et donc de soutenir le travail des militants en fournissant une légitimité et une visibilité mondiale aux réparations est au cœur de notre motivation et de notre raison d'être. Donc, jusqu'à présent, nous avons organisé 3 événements sur les réparations à Londres, à Birmingham et à Porto Novo, au Bénin. Nous avons créé un site web qui comprend une chronologie des initiatives de réparation avec une carte de nos membres. Ce n'est pas complet, mais voilà, il y a toujours du travail à faire. Et des documents clés relatifs à l'UNOSAR. Nous avons consulté et approuvé un document intitulé « Nos principes de participation » qui constitue la base sur laquelle nous travaillons ensemble dans le respect mutuel de la nature multiforme de nos connaissances et de notre expérience. Nous avons aussi lancé Rep Africa, qui est la branche de jeunesse et d'étudiants auxiliaires de l'UNOSAR. Et enfin, nous avons produit 2 documentaires en ligne et 2 rapports résumant nos conclusions suite à nos événements organisés à Birmingham et à Londres. Et un rapport d'ensemble décrivant nos principales recommandations sera publié sous peu. Et nous chercherons à obtenir d'autres fonds pour élaborer une trousse d'outils éducatifs et un film sur les réparations. Donc voilà, ceci résume un peu notre travail, mais seulement au niveau superficiel. Afin d'y réfléchir de manière auto-réflexive et en termes du thème de la conférence, nous devrons approfondir notre compréhension des différentes tensions à l'œuvre dans la création d'un tel projet et comment elles sont liées à notre passé collectif et à nos avenirs possibles. Donc, mémoire en strate, j'ai réfléchi un petit peu. La citation fournie dans le résumé de la conférence de COSELEC note que les conditions et les déterminations qui interviennent dans chaque événement présent sont issues de strates plus ou moins profondes de ce que l'on appelle le passé. Donc, le mot « strate » évoque une image géologique de la stratification des roches par sédimentation continue. Et dans cette image, notre génération actuelle se trouve sur la couche la plus à l'extérieur, marchant et s'enracinant dans une terre qui porte nos vestiges historiques et commémoratifs. L'écriture de l'histoire ou historiographie a été l'un des moyens par lesquels ce passé caché est transmis dans le présent. Mais l'histoire avec un H majuscule est aussi un moyen de communication problématique et limité, comme tous les moyens. Jusqu'à présent, l'histoire a eu pour conséquence que certaines strates ont été exclues ou volontairement oubliées de notre récit collectif, fournissant une cartographie biaisée du terrain que nous traversons. Et nous avons entendu parler de Pierre Nomara ce matin avec la présentation de Charles. Où sont par exemple les voix de ceux et celles qui ont été réduites en esclavage? Elles sont cachées dans les interstices et les silences du document écrit entre les strates des mots qui se trouvent sur la page. Donc ces angles morts historiques sont constamment remis en question par ceux qui vivent avec les séquelles d'histoires traumatisantes. Ils sont également interpellés par le travail des théoriciens postcoloniaux qui ont insisté sur l'importance de relire l'histoire du point de vue de ceux qui ont été colonisés et asservis. Mais ce n'est que maintenant, grâce en partie au mouvement décolonisant, que nous commençons à nous rendre compte à quel point ce passé continue de vivre dans le présent, par exemple comment il est ancré et façonne nos structures institutionnelles et les connaissances qui y sont contenues. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous interrogeons sur ce que ces interconnexions et les legs structurels qu'elles ont laissés signifient pour notre environnement social, économique, culturel, politique et physique. Cependant, depuis longtemps, les militants attirent l'attention sur les formes multiples ou multistrates d'oppression coloniale et néocoloniale qui réapparaissent sans cesse dans le présent. Ils utilisent le terme Kiswahili de Maangamizi et de Maafa pour désigner l'Holocauste africain ou ce qu'ils appellent l'Holocauste, referring to hell. Et ses liens avec l'esclavage colonial, le colonialisme et le néocolonialisme. Ils soulignent le fait que le système capitaliste d'oppression et d'exploitation, qui a également fait des ravages dans notre environnement naturel, a survécu et même bénéficié des fins supposées de l'esclavage et de la colonisation. Je pars donc d'un certain nombre de prémices. Premièrement, qu'il est urgent d'obtenir des réparations globales à l'échelle mondiale pour faire face aux séquelles multiples laissées par l'histoire entrelacée du capitalisme, de l'esclavage et du colonialisme, faute de quoi nous resterons pris au piège d'un cycle sans fin. Deuxièmement, que les systèmes occidentaux de connaissance et les structures institutionnelles qu'ils ont engendrées sont des espaces inadéquats pour trouver des réponses aux problèmes raciaux, socio-économiques et psychologiques, car ils ont été à l'origine de la création de ces mêmes problèmes. Je ne veux pas dire que ces systèmes de connaissances n'ont pas un rôle à jouer, mais ils sont inadéquats tout par eux-mêmes. Troisièmement, que la lutte de longue date pour la réparation et la justice réparatrice peut être utilement considérée comme faisant partie d'un mouvement plus large en faveur de la décolonisation qui nous pousse au-delà de la théorie postcoloniale et vers la praxis ou l'action. Donc, dans ce qui suit, je situerai les origines de l'INUSAR dans une série de tensions structurelles, raciales et de classe qui reviennent sans cesse autour de l'héritage esclavagiste et colonialiste. J'analyserai ces tensions en me référant aux problèmes ou peut-être aux questions qui ont surgi avant et pendant nos événements INUSAR. Donc, il s'agit d'une part des tensions entre universitaires et militants et d'autre part des tensions entre les différentes approches en matière de réparation au sein du mouvement social international pour les réparations africaines qui s'appelle aussi le AISMA. Donc, je conclurai ensuite en examinant comment l'INUSAR, en tant que projet, tente d'aborder ces questions en adoptant une approche réparatrice et décoloniale, enracinée dans la pratique de la justice cognitive, tout en abordant ce que cela pourrait signifier pour les pratiques de recherche. Voilà, excuse-moi. Donc, comme le note Anne-Lucie Araujou, étudier les impacts de la traite négrière atlantique et de l'esclavage en Afrique et dans les anciennes sociétés négrières est comparable à marcher dans une champ de mine. L'INUSAR est né de la reconnaissance qu'il y a des tensions chaque fois que des membres de l'Académie, représentant une communauté largement blanche, masculine ou bourgeoise, s'engagent dans les questions concernant des groupes marginalisés et racialisés qui n'ont pas reçu une reconnaissance adéquate. C'est particulièrement vrai lorsque les crimes contre l'humanité, donc notamment l'esclavage et le trafic des Africains réduits en esclavage, continuent d'avoir des effets multiples, interconnectés et négatifs sur ces mêmes groupes à l'heure actuelle. Un certain nombre de ces tensions sont à l'origine du projet INUSAR. Donc pour situer le contexte, du 5 au 7 novembre 2015, la professeure Joyce Hope Scott et moi-même, nous avons coordonné une importante conférence internationale intitulée « Réparer le passé, imaginer l'avenir, réparation et au-delà », qui marquait le bicentenaire du premier accord international visant à abolir l'esclavage lors du congrès de Vienne de 1815 et aussi le 150e du 13e amendement abolissant l'esclavage aux États-Unis. Donc, quelques semaines avant la conférence, nous avons reçu une lettre ouverte publiée par Parco, avec qui on travaille maintenant, dans laquelle il exprimait ses préoccupations au sujet des relations de pouvoir asymétriques à l'œuvre lorsque les universitaires opérant au sein d'institutions élitistes s'engagent dans la question de la réparation. Donc, tout en se félicitant, de notre événement et de son invitation ouverte aux militants, ils ont également critiqué son format en tant que conférence académique payante qui, pour citer, marginaliserait, comme d'habitude, les acteurs locaux dans le domaine de la justice réparatrice et exclurait la majorité des voix qui devraient être une partie indispensable de ce dialogue pour favoriser le brassage d'idées. Ils ont souligné que toute exploration d'une question dans les espaces académiques qui refuse de reconnaître et de permettre une représentation adéquate des systèmes de connaissances et des perspectives de la majorité des personnes qui vivent le sujet traité ne peut que déboucher sur une injustice cognitive. Donc, en nous demandant de reconnaître ces exclusions et ces déséquilibres du pouvoir, ils ont attiré l'attention sur ce que Chowdhury explique comme la tendance des experts professionnalisés ou des intellectuels universitaires à ignorer, rendre invisible ou écraser les voix, les idées et les théories produites par ceux qui participent aux luttes sociales. Le parcours a fait valoir que nous devions créer un espace plus égalitaire pour l'échange des connaissances et la collaboration, qui, pour citer Croteau, Hoynes et Ryan, reconnaîtrait comment le pouvoir et l'inégalité façonnent le contexte et comprendrait comment les universitaires situés dans les institutions puissantes sont inévitablement impliqués dans les inégalités sociales qui en résultèrent. Donc, nous avons répondu à leurs préoccupations immédiates, par exemple en supprimant les frais d'inscription et en accordant plus d'espace dans le programme pour que les militants puissent exprimer leurs préoccupations. Mais la structure du colloque est restée globalement inchangée, tant en ce qui concerne son environnement physique que son contenu. Donc, dès le départ, il était clair qu'il existait de nombreuses tensions transversales liées à des questions de race, de classe et dans une moindre mesure de sexe. Les divisions raciales et classistes ont entraîné des tensions entre les groupes militants et ce que l'on appelait les « establishment academics » ou les universités travaillant dans les institutions élitistes, tandis que les divisions classistes ont également créé des tensions entre les militants de base et ce qui représente la CARICOM Reparations Commission, donc le CRC, dont les principaux intervenants étaient la professeure Vereen Shepherd, alors présidente du Jamaican Reparations Committee, et Sir Hilary Beckles, président du CRC. Donc, cet événement a donc mis en évidence un grand nombre de points sensibles entre les militants et universitaires et entre les militants au sein du mouvement social pour les réparations lui-même. Mais malgré cela, la conférence a été un grand succès et la table ronde finale a abouti à une série de recommandations, y compris la nécessité de trouver du financement pour s'assurer que le type d'interaction qui commençait tout juste à se produire entre les différents groupes puisse se poursuivre à l'avenir. Donc, comme Vereen Shepherd l'a noté dans sa contribution à cette table ronde, les militants ont besoin d'un lien avec l'académie, mais les universitaires vont-ils accepter le défi des militants? C'est ça la question. Donc, c'est une autre volonté collective de faire face à ces défis qui est à l'origine de l'INUSAR. OK. Donc, notre première étape, c'était de faire face aux tensions structurelles entre militants et universitaires. Donc, en mai 2017, nous avons commencé à travailler à la création de l'INUSAR en vue d'aider à la consolidation du mouvement mondial de réparation africaine en pleine expansion, en unissant militants et universitaires. Dans ce processus consultatif nous a permis de créer un réseau qui place les universitaires et les militants sur un pied d'égalité et nous permet de travailler comme un collectif tout en respectant notre diversité interne. Mais cela ne veut pas dire que le chemin a été facile, donc loin de là. L'inauguration de l'INUSAR en octobre 2017 a eu lieu devant un public de militants, d'artistes et d'universitaires. Contrairement à la conférence en Édimbourg, la planification prévoyait dès le départ une consultation sur la façon de créer un espace physique qui permettrait un dialogue intercommunautaire et une collaboration équitable, tout en garantissant le respect du principe de la justice cognitive ou l'équité de toutes les connaissances. C'est ça qu'on veut dire, la justice cognitive. Donc, à cette fin, l'inauguration a eu lieu dans un centre communautaire à Brixton, à Londres, une région bien connue pour son héritage afro-caribien. Donc, cet espace communautaire est structurellement à l'opposé d'une salle de corps universitaire. Donc, les amphithéâtres universitaires sont basés sur le modèle grec. Ils sont conçus pour s'assurer que la multitude se concentre sur l'écoute d'une seule voix académique, comme maintenant. Donc, cette voix est amplifiée au centre et place le membre de l'institution qui parle dans une position d'autorité inattaquable. Donc, par contre, le centre communautaire n'a pas une telle structure hiérarchique dans sa conception. Il est construit pour être utilisé par le peuple. Mais outre l'espace, la structure et le contenu du programme avaient également été soigneusement planifiés. Donc, nous avons commencé par un panel qui représentait les voix des militants et des universitaires dans une mesure égale. Il comprenait la célèbre militante réparationniste et jurisconsulte Esther Stanford Cossey, qui est là, et Nick Draper, historien économique de l'esclavage et directeur du Center for the Study of the Legacies of British Slave Ownership de UCL à Londres. Mais malgré une planification minutieuse, des divisions sont rapidement apparues, en particulier en réponse à l'exposé de Draper sur l'éthique de la responsabilité dans la recherche sur l'histoire de l'esclavage et des réparations, notamment du point de vue européen et universitaire. Donc, Stanford Cossé a souligné l'importance des réparations éducatives décoloniales et de la justice cognitive en appelant les participants à reconnaître la pluriversalité des connaissances transmises au sein des communautés et à éviter l'élitisme tout en rendant des comptes aux communautés de patrimoine africain. En particulier lorsque nous parlons de l'histoire de l'esclavage et de la lutte pour les réparations. En réponse, Draper a reconnu que la présence des Européens dans l'exploration de l'histoire de l'esclavage soulevait une éthique de principe, puisque le concept de race avait été créé par les Européens pendant la période impériale. Il a donc également convenu que l'autoréflexion et l'autocritique étaient nécessaires. Mais là où il n'était pas d'accord avec Stanford Cossé, c'était sur ce qu'il appelait ses vues relativistes concernant de nombreuses vérités. Donc, il a exprimé sa préférence pour des faits historiques fondés sur des preuves qui pourraient être affirmées et documentées comme étant la vérité. Le débat sur les réparations et la propriété des esclaves, a-t-il dit, a donné lieu à de nombreuses versions abrégées de l'histoire qui ne sont pas conformes aux faits. Il a ensuite appelé les participants à confronter certaines vérités inconfortables, comme la vérité selon laquelle, je cite, si la société ouest-africaine a été absolument transformée par l'arrivée des Européens, l'esclavage n'est pas une institution apportée en Afrique de l'Ouest par les Européens eux-mêmes. Il a ajouté que ce fait ne remettait pas en cause les questions de responsabilité en ce qui concerne l'Europe. Des objections ont été soulevées à deux niveaux. La première était à l'idée qu'on pouvait comparer les systèmes de servitude en Afrique de l'Ouest avant l'arrivée des Européens avec le système européen d'esclavage imposé sur le continent à partir du XVIe siècle. Le second concernait le mauvais usage de la langue. Des termes tels que « slave trade », on la traite des esclaves, et « slave », donc « esclave », ont été carrément rejetés. Les militants ont fait valoir que la « trade », la traite, suggère un échange bidirectionnel de biens égaux, ce qui fait abstraction du fait que cette traite concernant le trafic des êtres humains n'était pas du tout égale. De même, il a été considéré que le substantif « esclave » oblitère l'histoire de la résistance dans le processus d'asservissement et ne marque pas tous les individus concernés comme des personnes d'abord et avant tout qui ont été mises en esclavage contre leur volonté. Donc, à première vue, ces désaccords sont centrés sur de mauvaises définitions de termes, ce qui suggère la nécessité d'une meilleure nuance, en particulier lorsqu'il s'agit de comparer différentes institutions d'esclavage sur le terme général esclavage. Donc, de façon plus générale, il souligne le besoin urgent d'affiner le langage que nous utilisons pour parler de ce passé. C'est une lutte qui dure depuis de nombreuses années dans le contexte anglophone. Après tout, la langue représente les structures fondamentales de nos modes de pensée. Par conséquent, de nouvelles expressions ou tournures de phrases sont nécessaires pour refléter comment nos attitudes envers ce passé ont changé. Une personne qui a été réduite en esclavage raconte une histoire complètement différente de celle que l'utilisation générique du mot « esclave ». Dans le sillage de l'évolution des usages linguistiques au sein du monde anglophone, je prends note de la récente initiative du Comité international des peuples noirs de rejeter le terme « esclave » en français et de le remplacer par « africain réduite en esclavage » ou « afrèse ». Donc, au-delà des structures linguistiques, ces désaccords mettent également en évidence des questions socio-culturelles plus enracinées. J'ai mentionné tout à l'heure Araujo, qui reconnaît le champ de mine que représente l'étude des impacts de l'esclavage sur les anciennes sociétés esclavagistes. Ce qu'elle entend peut-être par là, en termes plus directs, c'est que toute spécialiste d'origine européenne intéressée à étudier la question des réparations pour l'esclavage des Africains, ou même peut-être l'esclavage, finira par se heurter à leur droit d'exprimer ou de formuler des préoccupations appartenant à une communauté de réparation à laquelle ils ne sont pas liés. Donc, c'est ce que Drape avait à l'esprit lorsqu'il a parlé de la nécessité de réfléchir et de prendre conscience de soi. Cela soulève ensuite une question connexe concernant l'éthique de la participation qui soulève des questions sur la mesure dans laquelle le travail ou la recherche universitaire devrait rendre des comptes à une communauté d'intérêts, particulièrement lorsqu'il s'agit de l'héritage des crimes contre l'humanité qui continuent à causer du tort à ces communautés. Donc si la réponse est non, les opinions et les perspectives des personnes les plus directement concernées par la recherche ne doivent pas être prises en compte. On part ici de l'hypothèse que cela risquerait de compromettre l'objectivité de la recherche et de remettre en cause la liberté académique. Et nous sommes tous parfaitement conscients des débats sur les droits supposés des historiens dans le contexte des lois sur la mémoire. Mais si au contraire, nous convenons que, en tant qu'universitaires, nous sommes responsables devant une communauté d'intérêts, qu'est-ce que cela signifie pour la recherche qui s'est produite ? Perdant son objectivité et peut-être donc sa crédibilité par des accusations de partialité inhérente ou, au pire, des démagogies. Pour revenir aux différentes positions adoptées par Stanford Cossé et Draper, nous avons d'une part Draper qui croit en la véracité et la rationalité d'une vérité empirique singulière, qui est pour lui la mesure ultime de la responsabilité, et d'autre part Stanford Cossé qui nous exhorte à réévaluer comment cette vérité est construite et quel bias inconscient, j'utilise ce mot avec un peu de caution, elle peut contenir en le tenant à l'examen et en le relisant sous d'autres perspectives ontologiques et épistémologiques. C'est ce que l'on entend par réparation éducative décoloniale ou théorie décolonisante. Donc, la capacité de reconnaître, pour citer Parker, Holland et Dennison, l'artificialité des origines de la théorie eurocentrique et son applicabilité universelle présumée. Exposer les limites des modèles normatifs et privilégier l'applicabilité élargie des théories situées de manière différente. Donc, comme le font remarquer ces auteurs, il s'agit d'un changement de paradigme qui a de profondes répercussions sur les pratiques de recherche. Ainsi, lorsque Draper a affirmé ce qui, pour lui, était le fait que l'esclavage n'était pas une institution apportée en Afrique de l'Ouest par les Européens eux-mêmes, qu'il aille voulu ou non, il est tombé dans le piège du privilège blanc, affirmant qu'un son système des connaissances était plus valable que celui des voix activistes qui l'entouraient. Lorsqu'ils mots sont revus dans une perspective panafricaniste, comme l'a suggéré l'un des activistes, Cecil Gatsmore, une lecture alternative émerge. Par exemple, et comme le soutient Walter Rodney, alors qu'il y avait certainement des interconnexions historiques entre les différents systèmes de servitude sur le continent africain et l'esclavage colonial, les systèmes culturels sur lesquels la terre et le travail en Afrique et en Europe étaient basés ne sont pas comparables. En effet, la différence réside dans le fait indéniable que l'esclavage colonial a soutenu la création de modes de production capitalistes qui a produit simultanément une forme spécifique de racisme connue sous le nom d'afrophobie, un terme récemment reconnu par le Parlement européen en mars 2019. Donc, l'importance de l'appel de Stanford Cossé à éviter l'élitisme en s'assurant que nous demeurons responsables devant les communautés du patrimoine africain n'affecte donc pas la rigueur académique par des préjugés. Il s'agit plutôt d'un appel à s'attaquer aux préjugés inhérents aux structures existantes du savoir. Cela exige un processus d'autoréflexion enraciné dans l'acceptation du caractère pluriel des connaissances et de la justice cognitive qui servira à enrichir la recherche produite. Okay. Donc, maintenant, la deuxième étape, donc de faire face aux tensions au sein de l'ISMAR. Donc, le mouvement social international pour les réparations. Donc, les deuxième et troisième colloques de l'INUSAR ont été organisés en collaboration avec différents partenaires, dont l'Université de Birmingham City, au Royaume-Uni, et l'Association panafricaine pour une réparation globale de l'esclavage au Bénin. Ces événements internationaux, conçus pour contribuer positivement aux objectifs de justice réparatrice de la destinée internationale, reconnaissent la longévité historique des appels à la réparation pour l'esclavage des Africains. Donc, nous sommes au milieu d'une renaissance des appels à la réparation qui se distingue par leur transnationalisme et qui s'inspire par la volonté panafricaine, en partie, d'unifier le continent africain et son peuple dans la diaspora. C'est une lutte qui renvoie à des événements plus récents, tels que la proclamation d'Abuja de 1993 et la déclaration de Durban de 2001, qui a reconnu le droit de demander une réparation ou une satisfaction juste et adéquate pour tout dommage subi du fait des violations des droits de l'homme. Mais c'est aussi une lutte qui a une histoire aussi longue que celle de l'esclavage. Ainsi, lorsque nous parlons de réparation, nous parlons de revendications anciennes et presque entièrement non satisfaites qui ont reçu un nouveau élan grâce à la commémoration et à l'élaboration de la mise en œuvre de la législation internationale après la Seconde Guerre mondiale. Les principaux objectifs de nos deux événements internationaux étaient de réfléchir à l'harmonisation des définitions et des perspectives sur les réparations en rassemblant des différents volets et participants du projet INOSAR jusqu'à présent, et aussi de lancer une vision réparatrice de la direction que nous prenons et des futurs que nous visons. Notre intention était de mettre en évidence la richesse des perspectives et des approches en matière de réparation historique et de justice réparatrice, en particulier en ce qui concerne les dimensions culturelles et spirituelles longtemps négligées de cette lutte. Pas dans la lutte, mais la compréhension de ce que sont les réparations. Inévitablement, cela nous a forcés de faire face à l'existence des tensions au sein du mouvement international quant à la bonne approche à adopter aux réparations. Après tout, la réparation n'est pas seulement un terme juridique, c'est aussi une philosophie et une façon d'envisager le monde et son histoire. Bien que les différences dans les approches en matière de réparation soient beaucoup plus complexes que je ne peux le faire ici, et bien que les activistes individuels ou les groupes d'activistes puissent s'inspirer d'approches multiples plutôt que d'être figés dans une seule stratégie, nous pouvons observer certaines différences clés. Ces approches peuvent être résumées comme suit. Celles qui fonctionnent dans les limites des systèmes institutionnels actuels et celles qui cherchent à perturber ce système en trouvant de nouveaux moyens de s'auto-réparer et de créer une vision afro-futuriste. Donc, la stratégie adoptée par le CRC peut être considérée comme fonctionnant dans les limites du système actuel, en ce sens qu'elle repose sur les structures politiques et juridiques actuelles. La CRC a été établie en 2013 par les chefs des gouvernements des Caraïbes, donc la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française, ne sont pas, bien sûr, incluses dans ce processus au niveau des États, mais même s'il y a des mouvements sociaux sur ce point-là. Le mandat de ces gouvernements est le suivant. Donc, préparer le plaidoyer en faveur d'une justice réparatrice pour la communauté autochtone et d'ascendance africaine de la région qui sont victimes des crimes contre l'humanité sous la forme de génocide, d'esclavage, de traite des esclaves et d'apartheid racial. La CRC affirme que les victimes et les descendants de CCH ont un droit légal à une justice réparatrice et que ceux qui ont commis ces crimes et qui ont été enrichis par le produit de ces crimes ont à répondre devant la loi au niveau des réparations. Excusez-moi, la traduction n'est pas très bonne là. La CRC est dirigée par les États dirigeants des Caraïbes en tant que représentants élus du peuple, agissant en collaboration au niveau global, régional. Il s'agit donc d'une approche descendante, canalisée par l'élite caribienne, qui s'adresse, je cite, « au gouvernement de toutes les anciennes puissances coloniales et aux institutions compétentes de ces pays ». La revendication est fondée sur une législation internationale qui, en théorie, est capable de rendre une justice réparatrice et suppose que le lieu de la résolution et de la réconciliation doit être trouvé par des négociations entre chefs d'État ou entre États. En fin de compte, on suppose que le résultat de ces négociations sera bénéfique pour la population des Caraïbes grâce aux dons de l'argent indispensable pour appuyer les programmes liés au rapatriement, à l'éducation, à la culture, à la réparation psychologique et au transfert technologique. ainsi qu'à des excuses complètes et officielles et l'annulation de la dette. Donc, si elle réussit, elle créera bien sûr un précédent juridique historique qui sera transformateur. Comme Beckles l'a déclaré dans son discours liminaire à notre colloque international au Bénin, la réparation est une stratégie visant à provoquer le développement économique et social des peuples africains dans le monde. Donc, elle a le potentiel de devenir, je cite, le plus grand mouvement politique démocratique de ce 21e siècle. C'est un mouvement dont le monde a besoin. Pour Beckles, cela signifie que nous devons faire participer nos chefs d'État actuels. Il est venu à notre conférence de Porto Novo avec l'objectif spécifique d'appeler, je cite, nos gouvernements africains à faire preuve de leadership, notamment par la création d'une déclaration. Et donc, c'est peut-être notre plus grand succès à ce jour d'avoir pu obtenir ce que l'on appelle aujourd'hui la déclaration de Porto Novo, signée par Sa Majesté Kotozunmeyhakpon III, au nom du Conseil des rois du Bénin, qui appelle, je cite, les États africains et les dirigeants diplomatiques à se joindre à la société civile pour formuler des politiques et mettre en place des comités opérationnels afin d'institutionnaliser et de plaider en faveur de la justice réparatrice des pays qui ont mis en œuvre la mondialisation criminelle de l'esclavage et de faire ceci selon les principes du droit international et les dispositions des Nations Unies dans le cadre de la destinée internationale des personnes d'ascendance africaine. Donc, ce document sera utilisé par la CRC comme un mandat pour engager les chefs d'État au sein de l'Union africaine. La deuxième stratégie est représentée par les groupes tels que PARCO, mais aussi le Global African Congress UK, GAC UK. S'il existe de nombreux points d'accord sur la nature mondiale de la lutte pour la réparation, ils critiquent également la CSC pour un certain nombre de raisons. Elle est souvent perçue comme une initiative élitiste qui n'accorde pas suffisamment d'attention à la base. De plus, ils ne sont pas d'accord sur le fait que le lieu de la résolution et de la réconciliation peut se trouver au niveau étatique. Pour ces militants, les solutions aux problèmes auxquels sont confrontées la communauté africaine ne se trouvent pas dans les États ou les structures juridiques existantes. Ils reconnaissent, à l'instar de Nora Whitman, que les structures capitalistes fondamentales de l'exploitation illimitée de l'homme et de la nature, avec son saint graal de croissance économique perpétuelle à tout prix, est à la fois non durable sur le plan environnemental et dépend dans son fonctionnement fondamental de la perpétuation du Ma'afa ou Ma'angamizi, qui a sa base historique dans l'esclavage et le colonialisme. Tandis que le CRC revendique leur droit au sein de l'appareil étatique existant, au contraire, de nombreux militants de base insistent sur la nécessité de trouver des solutions à partir de la base sur le modèle d'autoréparation décrit par Chinua Ezu, critique et historien socio-littéraire du Nigeria. Donc, pour citer Cecil Godsmore, ce modèle d'autoréparation se déroule sur un plan bien au-dessus de celui de la souillure monétaire de base, en ce sens qu'il semble donner aux Africains un pouvoir d'action. Et comme l'affirme Whitman, le concept de réparation n'est pas uniquement en question de paiement monétaire, et je ne dis pas que le CRC considère que les réparations sont seulement en question de l'argent, donc loin de là. Mais pour Whitman, il faudrait obtenir des réparations compréhensives et globales qui lieraient activistes, anticapitalistes et écologistes par le biais d'un droit international au rejet du capitalisme qui s'est construit sur la criminalité organisée à grande échelle. Donc, cette approche transnationale transcende toutes les questions nationales et régionales puisque la lutte des Africains partout dans le monde est interconnectée et nous concerne tous. Tout en puisant plus largement dans l'urgence de nos préoccupations environnementales mondiales et la nécessité de construire un nouveau système mondial à partir de la base. La réponse ne peut donc pas être trouvée à l'intérieur des structures occidentales existantes, selon les activistes, au motif que les outils du maître ne peuvent pas démanteler la maison du maître. Donc, quelques conclusions. Donc, dans ces présentations, j'ai fait valoir que les différents sujets de tension qui sont apparus au cours des événements que nous avons organisés révèlent l'existence des problèmes et des structures coloniales profondément ancrées, enracinées, qu'il faut reconnaître et surmonter afin de développer une communication adéquate et que se construise une solidarité. Les rencontres, quelquefois hostiles, entre militants et universitaires ou entre ceux qui représentent une communauté marginalisée et les élites sociales, aboutissent souvent à une fermeture totale ou ce que Alain Pastour appelle un dialogue de sort classique entre intellectuels et militants. Donc, sur le plan pratique, l'un des principaux moyens par lesquels nous avons cherché à résoudre ces problèmes a été de créer un document intitulé « Principe de participation ». Et dans ce document, nous affirmons que nous soutenons la justice et l'équité dans tous les savoirs, sans privilégier une forme de connaissance par rapport à un autre. Cela signifie qu'il faut s'ouvrir aux questions difficiles qui provoquent des tensions entre les communautés d'intérêt en matière de réparation et les élites du monde universitaire, des gouvernements et d'autres structures institutionnelles. C'est nous confronter à nos propres points de vue préjudiciables et la façon dont nous avons bloqué des points de vue d'autres personnes opérant au sein d'épistémologies et d'ontologies différentes qui ont été fascinées par le fait de l'oppression et de l'exclusion et qui ont beaucoup à dire sur les limites des points de vue occidentalocentriques. Donc, en conclusion, enfin, l'INOSAR, dans ses origines, dans son présent et dans son avenir, est un projet intrinsèquement décolonisateur qui s'emploie à remettre en question et à désassembler les structures coloniales au sein de l'Académie. Des structures qui ont abouti non seulement à l'exclusion des voix minoritaires représentant les préoccupations communautaires, mais aussi à la délégitimation de tout point de vue qui remet en cause le canon occidental et ses hiérarchies. Donc, selon Zembilas, la décolonisation est un acte de justice cognitive qui, je cite, désigne un mode de connaissance qui résiste l'eurocentrisme de l'Occident et s'efforce de corriger les injustices de la domination coloniale en démantelant les différentes formes d'impérialisme, y compris cognitif, qui perpétuent l'assujettissement et l'exploitation des personnes asservies et désarmées par le colonialisme. Donc, au-delà du travail des études postcoloniales qui a cherché à mettre en évidence et à remettre en question les discours du pouvoir inhérent aux structures linguistiques et spatiales, la décolonisation signifie reconnaître l'existence et la validité de multiples formes de savoir et s'ouvrir, comme le soutient Mbembe, à d'autres possibilités épistémiques qui nécessairement affecteront la grille de lecture par laquelle l'histoire et le présent sont lus et interprétés, ainsi que nos pratiques de recherche. Donc, c'est précisément ce que nous avons essayé de faire dans les NUSAR, questionner comment le savoir est produit dans les constructions spatiales et linguistiques et nous engager dans d'autres façons de penser. Donc, l'objectif d'un tel produit est de contribuer au changement systématique sans lequel nous resterons piégés dans un cycle de répétition. Sans que ce système capitaliste restera en place, il n'y aura pas d'avancée et certainement pas de réparation, car, pour citer Kayinde Andrews, il n'y a aucune chance que le racisme soit éradiqué du capitalisme. Nous sommes tout simplement condamnés à voir les mêmes strates réapparaître encore et encore à travers notre archéologie historique avec la répétition des crimes contre l'humanité qui sont liés aux crimes contre notre environnement. Réparer par conséquent, ce n'est pas seulement se souvenir et apprendre du passé, c'est aussi démanteler activement ces structures nuisibles et commencer à envisager de nouveau neuf notre avenir collectif. Je vous remercie.
Eh bien, merci beaucoup pour cette communication qui nous apprend beaucoup de choses sur ces réseaux, assez stupéfiants. on verra peut-être dans le débat de quelle manière on peut peut-être, ça peut être intéressant pour nous de comparer avec ce qui se fait en France dans la recherche. Voilà, on va tout de suite donner la parole à Céline. Et on fera le vrai débat avec les vraies questions après la pause.